Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Devant moi, j'ai Jacques Melun. Bonjour.
Bonjour. Merci de me recevoir dans un cadre aussi vert. C'est magnifique.
Et à mes côtés, Mallory. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Jacques Melun, vous êtes ici pour nous présenter divers ouvrages que vous avez rédigés. Cela est le résultat aussi d'une carrière où vous étiez fonctionnaire.
Oui. Mais c'est-à-dire que certains naissent peut-être auteurs, se mettent tout de suite à écrire. Moi, ça n'a pas été mon cas. Il a fallu pratiquement finir ma carrière en goûtant différents corps de métier. Et puis, fonctionnaire, on est quand même bien encadré. Et ma vie m'a amené quand même à découvrir à gauche, à droite, tout ce qui se passait. Et que ça ne plaît pas toujours à l'administration. Alors, un jour, on m'a demandé de lever un peu le pied. Et j'ai repris des cours par correspondance. J'ai eu la chance de tomber sur une professeure qui partait à la retraite. Et c'est elle, donc, qui m'a dit, mais Jacques, il faut écrire. Il t'est arrivé ta aventure. C'est passionnant au niveau de mes devoirs. Alors moi, ça c'est quelque chose, déjà à l'école on m'avait jamais dit ça, hein. L'écriture c'était pas mon fort, et puis, mais bon, à l'école on manque d'expérience, on sait rien, quand on en sort on sait toujours rien pratiquement, mais bon après une quarantaine d'années de vie, on a appris beaucoup de choses, et là j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup d'événements, et donc il y avait à raconter. Et comme depuis quelques années, je connaissais assez bien Thaïlande, m'y étant marié, ayant vécu, m'étant occupé des enfants là-bas, j'ai dit, bon, c'est un domaine dont je connais quand même certaines choses que les gens emballés pour aller en Thaïlande ne connaissent pas. Et en plus, en Thaïlande, là, il y avait eu ce tsunami qui avait bouleversé le monde entier avec ce tsunami. Il faut revenir un petit peu là-dessus, qu'on n'oublie pas ces événements importants qui ont bouleversé le monde. Alors, je suis parti sur un premier roman où j'ai... Donc, une fiction, parce que donc, j'ai pas voulu raconter le tsunami de 2004, mais des tsunamis, c'est un fait tout à fait naturel. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, des petits, des gros. Et donc je suis parti sur une fiction d'un tsunami qui pourrait, là j'emploie bien le conditionnel, en 2036, parce qu'en 2036 va se passer un événement dans l'univers, et cet événement se produit un certain jour, un 13 avril, qui tombe par hasard un vendredi, et aussi le jour de la fête de l'eau en Thaïlande et le jour du nouvel an thaïlandais. Ça, je ne l'ai pas inventé, vous regardez dans les calendriers.
C'est sur quel calendrier vous avez eu les infos comme quoi en 2036, il pouvait y avoir la catastrophe?
Alors là, je ne l'ai pas trouvé sur un calendrier. Bon, le calendrier Thaï, mettons, cette année, on est en 2563. Ils n'ont pas les mêmes années que nous. Nous, on parle avec Jésus-Christ, eux, ils parlent avec Bouddha. Mais là, c'est sur Internet. Vous cherchez sur Internet au niveau des catastrophes qui peuvent arriver.
Internet, source sûre.
Parce qu'il y a... Il y a une quantité de scientifiques qui se sont penchés dessus. Je ne sais pas si... Il y a même des photos, tout a été photographié. C'est-à-dire tout au début que l'on s'en est aperçu de cet événement. Allez, je vais vous le dire, c'est un astéroïde. Donc on les connaît, ils sont tous... On s'en est aperçu de celui-là en 2004. C'est ce qu'on appelle un géocroiseur. Ils ont une course régulière et ils repassent régulièrement. Et ce géocroiseur, c'est quand même un très gros astéroïde qui vient parfois frôler la Terre. Mais en 2029, il doit repasser, et en 2036, c'est là il va s'approcher de la Terre, mais on ne peut pas connaître exactement sa trajectoire, parce que avant de venir vers la Terre, il va frôler le Soleil. Lorsqu'il frôle le Soleil, il se déforme, et par sa déformation, il modifie sa trajectoire. Bon, au fur et à mesure, c'est-à-dire que tout au début, en 2004, ça a été découvert. Bon, il y a un truc qui se passe. Maintenant, il y a une quantité de scientifiques au fur et à mesure des années, et vous avez de plus en plus de données sur cet astéroïde, comme d'autres qui se déplacent. Et puis, bon, on en a dans le temps, il y a toujours eu des gros et des petits. Il y en a toujours qui tombent. Bon, ce qu'il faut, c'est qu'ils ne tombent pas sur une ville ou... Mais il y en a encore qui tombent des assez gros dans le désert ou ailleurs, un endroit bon, ben, où les gens vont pas. Quoi. Ça, mais si un gros comme ça éventuellement peut être détourné par un autre astéroïde, ou ben, là ça devient de la fiction, hein, ça peut avoir une ampleur beaucoup plus importante. Je veux dire, imaginez que ça tombe sur New York, ça tombe sur Moscou, ça tombe sur Paris, ou ça tombe dans un endroit où il y a beaucoup de monde, et puis... ça peut faire une catastrophe mondiale, c'est-à-dire que lorsque ça tombe aussi, mais après je vais vous faire une description un peu trop scientifique, lorsque vous avez un très gros impact sur la Terre, vous avez à l'autre bout de la Terre à peu près la même chose qui se produit. Donc là, vous avez un impact, vous avez un tsunami, de l'autre côté en face, vous en avez d'autres qui se créent, et ça, à l'échelle mondiale, si c'est important... On va pas retourner lorsqu'il y avait 65 millions d'années, les dinosaures sont disparus, mais sans aller à ce point-là, ça peut faire une très 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 grosse catastrophe.
Ce que je voudrais savoir, Jacques Melin, c'était vos fonctions, quelles étaient-elles et à travers la planète, je suppose.
Mes fonctions à travers la planète, j'étais dans un petit bureau d'études, bien enfoncé pour qu'on ne puisse pas monter, surtout que je ne raconte pas tout ce que je sais. Et j'étais aussi accompagnateur en montagne, donc j'ai pu faire des formations. J'avais donc ce diplôme d'État en plus, et j'avais donc une autorisation du ministère de l'équipement à cette époque-là. Et j'étais quand même surpris, moi, petite catégorie C, au plus bas, j'avais que des ingénieurs qui venaient à mes formations. Et comme bon, je voulais quand même offrir quelque chose de sérieux, et connaissant quand même pas mal de monde, j'avais autour de moi donc des personnes, parfois qui étaient aussi ingénieurs, mais aussi directeurs départementaux ou autres, qui connaissaient très bien les sujets et qui étaient autour de moi. Et aujourd'hui encore, dans mon dernier livre, là, qui est une suite du premier Gaïa, où on retrouve Gaïa, le dernier livre qui s'appelle « La montagne et la liberté », je suis encore encadré de docteurs, de professeurs, de scientifiques, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je passe une bonne partie de mon temps à l'université, parce que ayant aidé donc les enfants de ma femme, aujourd'hui, l'une des filles est docteur en entomologie sur les petites bêtes, sur les petits insectes, elle serait heureuse ici. Et donc autour, il y a pas mal d'autres professeurs et qui sont tous à travers le monde en contact les uns avec les autres, et que j'arrive à avoir donc des informations. Et même, il y a un docteur qui... Bon, il a bientôt 80 ans, et je sais que lorsque on en avait parlé, surtout avec le Covid qui est arrivé après, mais il avait quelques craintes pour sa santé, il avait fait pas mal de recherches, il m'a offert ses recherches avant qu'elles ne soient publiées, avant que les autres scientifiques ne le sachent. Je n'ai pas voulu en parler dans mon livre, j'ai attendu que ses recherches soient quand même publiées, et que bon, il est quand même maître aujourd'hui. Et j'ai tous ces documents de recherche, je vais vous dire, c'est sur les abeilles. Mais c'est un truc qu'on ne connaît pas ici. Hein, c'est un truc, parce qu'il y a des abeilles, il n'y a pas nos petites abeilles qui font du miel. Hein, il y en a partout à travers le monde. Et entre autres, c'était sur les abeilles qu'il avait fait ses recherches, dont je parle dans mon dernier livre, « La montagne, la liberté ». Ça va être pour la partie « La montagne » où je parle de ces abeilles.
Moi, je reviens, j'ai vu sur un de vos bouquins qui est présenté ici que du coup, vous l'avez fait éditer, mais pas en France, mais en Thaïlande.
Non, je suis, que ce soit en Thaïlande ou ici, je suis en auto-édition.
Parce qu'il me semblait bien que je ne voyais pas sur les bouquins, et je me demandais voilà. Si vous étiez du coup indépendant au
je
niveau de l'édition.
Tout à fait indépendant, et le premier livre, le tout premier, donc celui-ci que vous avez en main, je l'ai fait imprimer en Thaïlande. cet exemplaire-là est imprimé. Et les autres exemplaires, donc le même volume, a été réimprimé ici en France. Et les autres sont imprimés en France à une toute petite imprimerie familiale qui se trouve à Sète.
D'accord. Hein,
et avec lesquelles j'ai continué. Elle s'appelle Flamme. C'est-à-dire que, bon, fréquentant les salons du livre, en discutant avec les auteurs, j'ai rencontré un auteur du Midi. Ben moi, je suis là, chez Flamme, là, je connais bien le patron, il est sympa. Bon, les prix, on se renseigne un petit peu partout sur les prix, et puis, ah, bon, ouais, on était tombé à un bon accord. Aujourd'hui, bon, le patron a pris sa retraite, c'est sa fille qui a succédé avec son compagnon, ils ont deux enfants, donc c'est pas là, surtout pas à l'étranger. Et même là, c'est vrai, quand vous me parlez pour cette première imprimerie en Thaïlande que je connais, alors, comme lorsque j'étais accompagnateur montagne, partout où j'allais amener les gens, j'allais tester où ils allaient dormir, ce qu'ils allaient manger, je teste tout. Et là, c'est pareil, je testais l'imprimerie, j'ai circulé dedans, je voyais comment les gens travaillaient, et ce sont des gens qui connaissent très bien leur travail, qui travaillent très correctement. Je dis, c'est des gens qui ont autant besoin de travailler que d'autres, qui vous prennent votre bouquin, parce que j'avais essayé de voir d'autres maisons d'édition aussi, où je ne suis pas contre les maisons d'édition, on peut tomber sur une bonne, mais malheureusement, je n'ai pas rencontré de bonnes.
Moi, j'ai eu que de mauvaises expériences avec les maisons d'édition. C'est pour ça que je me suis permis de vous demander, en fait.
Vous avez deux.
J'ai publié deux nouvelles, en fait, oui. Et c'est vrai que je n'ai pas été, on va dire, satisfaite par les démarches des maisons d'édition. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir si vous travaillez de manière indépendante ou pas du tout.
Oui, oui, aujourd'hui, je suis tout à fait indépendant. Ouais. Mais ça peut changer, hein. Il suffit. Je suis allé à Lagrand il n'y a pas longtemps, à une soirée donc de lecture avec, je cherche son prénom, Rouge, c'est son nom de famille, d'auteur, et lui, donc, a Jet d'encre, sa maison d'édition, et il nous a bien rappelé, parce qu'on se connaît pas mal de temps, en fin de compte, il faut une certaine connivence entre l'auteur et la maison d'édition. Si vous vous entendez pas bien, il faut qu'on soit copains. Si vous n'êtes pas copains, c'est pas la peine. Et là, donc, c'est vrai qu'il y en a d'autres maisons d'édition qui sont venues me voir, comme parfois les endroits où je dédicace, et je me souviens. Là c'était à Boulogne-sur-Mer, voyez-vous, j'étais à la FNAC, il y a eu une maison d'édition qui est venue, enfin, la patronne est arrivée, l'éditrice, elle a pris mon bouquin, ça l'intéressait, je lui ai dit non, mais moi je me débrouille bien, et ensuite je suis allé chez Leclerc, et là c'était tout craché, c'était sa fille qui était là, elle a pris mon bouquin comme ça, il y avait du monde qui était intéressé pour les... J'ai expliqué un petit peu ce qu'il y avait dans le bouquin, elle l'a regardé. Et puis, sans rien, elle a dit, « Monsieur, vous savez que les auteurs ont besoin des maisons d'édition pour vivre ? Que les maisons d'édition ont besoin des auteurs pour vivre ? Et les riches ont besoin des pauvres pour vivre ?» Elle m'a claqué le livre devant le nez. Je lui ai dit, « Désolé, mais ça ne me donne pas envie d'aller chez vous non plus. »
Je reviens à votre... votre fonction, vous ne nous avez pas vraiment précisé quelle était-elle, mais ça vous a permis de parcourir la planète.
Mais j'étais dans un bureau d'études de l'équipement, très longtemps, donc à faire des études. Et l'équipement, c'est une administration qui ne ferme pas l'été au mois d'août. Donc, on peut prendre ses vacances. Bon, il suffit de prévenir. Quand on veut. Donc, c'est vrai, aller au mois d'août en Thaïlande, bon, c'est pas le meilleur moment. Et on avait, je pense qu'il y a encore la possibilité, de prendre du congé sans solde. Surtout que moi je m'occupais aussi des enfants, donc j'allais aussi sur place pour m'occuper de mes petites filles qui grandissaient année après année. Et souvent je prenais, en plus de mon mois de congé, un deuxième mois. Et parfois je m'arrêtais, c'est vrai que je suis allé plusieurs fois au Népal, sur le même itinéraire. Donc, et la Birmanie et d'autres endroits, mais ça c'était en 86. On avait le droit qu'à une semaine en Birmanie à cette époque-là. Donc il suffit de faire un petit saut d'avion. Mais parfois, je veux dire, il y a eu aussi Java, mettons là, au dos. Et bon, là, c'est pour ça que j'ai mis une fiction. Je suis un des premiers aussi à avoir descendu au fond d'un volcan après Katchai Maurice Craft. Et lorsque j'y suis allé deux fois donc, sur ce volcan, j'avais traversé donc, l'île de Java. J'étais allé pour monter un circuit de voyage-aventure. Et lorsque je l'ai proposé, l'agence, en fin de compte, avait besoin d'un correspondant sur place pour faire la réservation pour se loger. Alors là, j'avais monté une association, parce qu'en tant qu'accompagnateur, j'avais monté une association avec d'autres accompagnateurs. Et ce voyage, en fin de compte, lorsque le responsable de l'agence a reçu le fax avec les prix, donc à inclure dans le voyage, avait le fax. Et puis juste avant, j'avais une collègue, enfin une amie qui travaillait à la préfecture, elle me dit « Oh, tu sais, je vais peut-être partir à Java, il y a un truc aventure formidable là, pas très cher. » Mot pour mot, c'était exactement le même texte. La personne qui était là-bas à Java avait... fait bon usage de mon texte, de toutes les données que j'avais données, et ça va très vite. Il n'y avait pas encore Internet à cette époque-là, mais par fax, ça va très vite à remplir un programme et dans la brochure, mot pour mot, et un petit peu moins cher, parce que bon, là, ils n'avaient rien à repérer, tout était gratuit, tout était donné, et ils avaient supprimé une partie du circuit où il manquait d'informations, et puis je pense que les gens avaient un petit peu peur peut-être d'y aller. Il fallait descendre en apnée à certains endroits. Oui.
Vous avez rédigé une douzaine d'ouvrages. Ça fait combien de temps que vous écrivez ?
J'écrivais déjà quand je travaillais, mais c'est surtout la nuit. Alors parfois c'est vrai que j'ai besoin de peu de sommeil. Mais surtout, ce qui est important, j'ai besoin de ne pas être au confort dans un endroit. Et souvent, mettons encore, j'écris, je fréquente énormément les auberges de jeunesse. Les auberges de jeunesse, oh, c'est plein de gamins, ça fait du bruit, tout ça. Mais non, les gamins, ils sont juste en train de faire un petit peu de bruit quand ils vont déjeuner le matin, et puis le soir quand ils vont se coucher. Mais la nuit, dans l'auberge de jeunesse, et puis dans certaines, ils me connaissent, donc je suis tout seul dans le dortoir, dans la chambre, j'ai l'ordinateur, et puis. Si j'ai envie d'écrire, il est 11h, hop, je me lève, je me mets sur l'ordinateur, et j'ai des idées. C'est vraiment des idées, hein, c'est pas la commande. Et en ce moment, c'est vrai que là, avec tout ce qui se passe, j'aurais presque envie d'écrire un troisième livre, mais là, oh là là, je me dis, il vaut mieux patienter, parce que...
Vous avez fait référence aux auberges de jeunesse. Moi, pour avoir voyagé un petit peu, je sais qu'on trouve plus le système d'auberges de jeunesse à l'étranger qu'en France. Du coup, est-ce que... Enfin, après, peut-être que je me trompe, hein, mais en France, j'en connais pas...
Les Français connaissent pas... Il y a deux systèmes d'auberges de jeunesse. Il y a la Fédération, la FUAGE, la Fédération des auberges de jeunesse... Et il y a la Ligue des auberges de jeunesse, bon, avec les auberges qui ne sont pas situées à peu près au même endroit. Alors, je ne sais pas si je peux le dire.
C'était juste pour me demander, du coup, est-ce que votre inspiration, elle venait peut-être plus facilement quand vous étiez en voyage, ou est-ce que peu importe où vous êtes,
peu importe. Mais on rencontre énormément de personnes dans les auberges de jeunesse, de tous les niveaux. Bon, il y a des pauvres malheureux. J'ai eu un gars d'une cinquantaine d'années, tout barbu, avec son petit sac plastique. Et il me dit, j'ai rien, j'ai tout perdu, le pauvre. Je vois certains neveux de ministres africains qui arrivent en attendant à se loger. Je vois des docteurs... qui viennent d'Argentine, mais venez dans notre pays, de contact que l'on peut prendre. Et c'est un milieu ouvert, contrairement, excusez-moi, mais ça m'est arrivé aussi d'aller dans des 5 étoiles quand j'ai des groupes, et quand on sort de la jungle, bon, les gens, ils veulent péter dans la soie, j'aime pas ça, j'ai horreur, alors qu'il y a une telle convivialité dans une auberge de jeunesse. Après, tout dépend comment l'auberge de jeunesse est gérée aussi. Il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a où on mange. C'est... Puis après, ça dépend de sa personne aussi. Moi, je vois des gens qui sont à l'auberge de jeunesse parfois, qui sont à la table le matin, et puis la personne me dit, mais je ne sais pas ce que je vais faire dans la journée, alors que moi, je n'ai pas encore ouvert les yeux. Il y a plein de choses, quel que soit le temps, il n'y a rien qui m'arrête. Bon, toute ma vie a été comme ça. Depuis tout petit, mon père m'avait commencé à travailler à 12 ans, j'ai toujours été actif. Et je plains ceux qui passent leur temps devant la télévision ou devant l'écran en train de regarder, attendre le lendemain.
Là, vous nous présentez votre dernière publication qui s'intitule « La montagne, la liberté », qui est une suite de Gaïa, en quelque sorte.
Oui,
qui
on retrouve
parle,
le même personnage.
Voilà, une espèce de roman-fiction pour le premier, hein, qui s'appelait Gaïa 2036, Survivre.
C'est toujours une fiction, mais il y a des photos. Alors, vous voyez là... C'est la prison. On n'y entre pas dans cette prison. Moi, j'ai eu la chance exceptionnelle. C'est-à-dire que je suis assez curieux. Je vois une porte entrouverte, je pousse. Et de m'y retrouver. Alors, je dois vous en parler un tout petit peu de cette prison. C'est une prison... pour y rentrer déjà, elle venait d'être désaffectée. Toutes les prisonnières venaient d'être embarquées par bus dans une autre prison. Et... j'avais jamais vu une prison ouverte. Et puis là, j'étais surpris. Je suis rentré et j'ai pu faire les photos que j'ai. Et je connaissais, ou j'ai connu peut-être juste après, la capitaine, la femme qui dirigeait cette prison. C'est pour ça que j'ai eu pas mal d'informations. On est devenu amis et amis aussi avec un autre personnage qui est un Belge que j'ai reçu son dernier mail tout à l'heure, qui lui, donc, a dû... rentré en Belgique à Bruxelles, ce gars, Thierry, a créé une fondation pour aider les prisonnières. Alors, dans cette prison de Chiang Mai, lorsque je suis parti début février, je voulais savoir où ça en était, on est allé chercher une dernière prisonnière qui venait de sortir. Chiang Mai, c'est une grande ville où il y avait, en janvier, donc m'a dit cette prisonnière qui venait juste de sortir, 2200 femmes, janvier 2020. Lorsque j'étais allé visiter la prison, c'était en 2013-2014, elles étaient déjà 1500 dans une prison de 1200 places. Ce qui est effarant, c'est la progression en peu d'années de prisonnières. Alors ces femmes... Ici aussi, il y a des gens en prison. Et 80% sont là pour la drogue. Mais ici, en France, la plupart, j'en dirais 99%, si elles ont trafiqué, si elles ont fumé, c'est par leur volonté. Là-bas, la femme n'a pas le même statut. Ma fille, là, la fille de ma femme, qui est docteur en entomologie, qui a un très bon salaire, professeur d'université, dans la famille, elle est en dessous du mari, qui lui fait peut-être pas grand-chose, mais est du reste de la famille.
Mais c'est beaucoup dans leur culture là-bas, généralement, que la femme soit très active et l'homme beaucoup moins. Contrario de nous, notre culture en France,
voilà. Qui a pu être... Et au niveau des responsabilités aussi. Alors, le Thaïlandais, la Thaïlandaise aussi, hein, ils aiment l'argent, hein, ça c'est quelque chose, et ils aiment paraître, hein, dans d'autres pays aussi. Hein, Et il y a eu une opération, par exemple, il y a quelques années, qui a été un petit peu copiée chez nous, pour mettre les voitures à la casse, de verser une prime. Et là-bas, donc, le gouvernement thaïlandais avait prévu que 500 000 voitures partiraient à la casse en versant la prime. Eh bien, les 500 000 voitures, ça n'a pas suffi. Il y a eu 1 500 000 voitures. Et pour cela, les gens ont emprunté. Ont tout vendu. Et lorsqu'ils n'ont pas pu rembourser, comme ça arrive souvent, la banque prend l'argent. Et s'il n'y a rien, si personne n'est là pour payer, on prend votre bien. Et s'il y a des enfants, ce sont les enfants qui vont payer. Là, c'est juste un exemple. Pas pour la voiture, pour d'autres causes. La petite jeune fille qui peut travailler, qui peut faire quelque chose, qui peut rapporter de l'argent, elle doit aider à la famille, ou aider son concubin, ou aider son compagnon. Et ça, pour ces femmes-là, essentiellement, 95%, j'aimerais dire, viennent de la campagne, viennent des montagnes, où elles n'ont pas l'éducation qu'il y a en ville. Lorsqu'elles arrivent en prison, elles arrivent au milieu de personnes qui ont pratiquement pas d'éducation. Et lorsqu'elles étaient là-bas, dans la montagne, elles se sont vite... elles sont rentrées dans le cercle. Si elles ne le font pas, elles sont tabassées. Elles n'ont pas le choix. Et lorsqu'elles ont les pilules à transporter... Et si elles sont prises, il faut encore qu'elles payent. Et puis, si elles ne peuvent pas payer, c'est la prison qui les attend. Ou là, en fin de compte, je dois dire, il ne faut pas être tout à fait contre la prison. Pour elles, c'est en fin de compte une porte de sortie auquel elles ne s'attendaient pas. Elles ont la possibilité d'apprendre à travailler, de suivre des cours. Et entre autres, au niveau du travail, ce sont des massages. Elles apprennent à faire des massages avec des professeurs. Et lorsqu'elles sortent, elles peuvent travailler. Et donc le gars que je vous parlais du Thierry qui est en Belgique, ce qui a été monté là-bas à Chiang Mai, c'est 5 centres de massage. Où donc les prisonnières, lorsqu'elles sortent, elles ont parfois un gamin, parce qu'on parle de femmes, mais en prison, il y a des bébés aussi. Lorsqu'elles sortent, elles ont le bébé sur les bras. Et puis une prisonnière qui sort pour trouver du boulot, c'est pas évident.
Est-ce que vous suivez un fil dans ce que vous écrivez ?
Non, je ne suis pas de fil. En fin de compte, hier justement, il y a une personne qui veut retourner en Thaïlande. Elle me dit, je voudrais voir ceci. Je dis, mais moi, bon, tout au début, j'étais parti avec un programme. Et puis, le voyage suivant, je sais ce qu'il y a à voir, je sais ce que l'on peut rencontrer, mais je n'ai plus de programme. C'est en fonction de l'arrivée, les gens que je vais rencontrer et des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Pas du tout, et c'est ce qui va me faire découvrir ce que les gens ne découvrent pas. Vous prenez le guide du routard, vous prenez d'autres Lonely Planet, vous savez ce qu'il faut voir. Bon, ça c'est bien. Mais ensuite, vous, ce que vous allez découvrir, et moi, ce que tout ce que je mets dans mes livres, ça se trouve pas dans ces guides-là, les photos. Et hier, je parlais à cette personne de la prison. On peut visiter la prison. Je dis non, elle n'est pas visitable. C'est pas possible. Moi, j'ai eu cette chance-là à ce moment-là de rencontrer cette personne à ce moment-là. Et une fois, mettons, sur Java, j'ai fait la traversée de Java. Je ne savais pas ce que j'allais faire exactement, mais en passant la douane, j'avais 40 ans, il y avait un jeune de 20 ans devant moi, on a discuté en présentant nos passeports, et on a fini à passer un mois ensemble à traverser le Java sur les volcans, mais jamais, alors qu'il y a quand même un écart de génération. Donc je ne prépare rien, c'est à chaque fois l'aventure, c'est ce qui arrive, bon, je sais ce qu'il y a à voir... Mais non, je n'ai pas un fil conducteur. Bon, je sais qu'aujourd'hui, bon, je vais voir ma fille, je sais que j'ai tel professeur. Mais voyez-vous, par exemple, sur l'université, où j'y passe quand même pas mal de temps, et qu'au niveau des femmes, donc on commençait à parler au niveau de la Thaïlande sur la drogue et vis-à-vis de l'homme, il y a aussi une chose, une femme qui a un bébé, ou qui en a deux, comme ma fille, de petites jumelles, ici vous avez la nounou, on va s'en occuper. Là-bas on n'a pas confiance. Vous êtes enseignante, mais vous allez, avec les bébés, enseigner. Et là, les collègues de ma fille ont offert donc un grand lit à mettre dans le bureau. Et les deux petites jumelles de quelques mois, il faut s'en occuper. Et moi, j'étais le papy. J'ai eu la chance de rentrer donc, dans l'université et de m'occuper aussi des bébés, de me balader avec les bébés dans les couloirs.
Combien de temps se sont écoulés entre les différentes publications de vos ouvrages ?
Le premier est sorti en 2014, on va dire. C'était les derniers jours de 2013 en Thaïlande. Et puis le dernier vient d'arriver, là. Donc tous les ans, il y en a un ou deux. Donc là, c'est, j'en dire quand même un petit peu un penchant quand même pour les adultes. Mais j'en ai fait d'autres aussi, plus pour la jeunesse.
Et pour revenir à l'anecdote du début, où à la base, le fait que vous ayez commencé à écrire, ça partait sur un conseil de quelqu'un qui vous a dit « mais vous devriez écrire avec tout ce que vous avez vécu et tout ». Au final, c'est un conseil que vous avez suivi et qui vous a apporté énormément. Parce que là, vous avez découvert vraiment une vraie passion pour l'écriture et faire partager des choses à travers...
Ah oui, je découvre, et j'ai envie de dire, ce matin ou c'était hier, une petite fille, elle me dit, j'ai envie d'écrire, mais je dis, écris, n'importe quoi, et puis après, tu vas voir, tu vas mettre ça de côté, et puis tu vas découvrir, c'est-à-dire que, en même temps que d'écrire, bon, je vous en ai parlais tout à l'heure, l'année dernière, on m'a dit, vous connaissez personne qui pourrait faire une conférence. Bon, c'est vrai que je parle assez aisément, que j'ai quand même pas mal de sujets dans différents domaines. Je dis, je pourrais peut-être vous dépanner en faisant une. Et je suis parti sur l'histoire de San Martín, le libérateur de l'Argentine, du Pérou, du Chili, que personne ne connaît, mais qui est décédé en France. Il est décédé à Boulogne-sur-Mer, où moi je suis né, et il y a un musée, et qu'en Argentine, les Argentins, si en France les gens ne connaissent pas très peu Boulogne-sur-Mer, tous les Argentins connaissent Boulogne-sur-Mer. Parce que tous les petits-enfants, avec leurs sous, les écoliers, ont racheté la maison où cet Argentin, San Martín, est décédé, et en ont fait un musée. Et quand vous rencontrez un Argentin, vous êtes de Boulogne-sur-Mer. Ah oui, on connaît. Ça, c'est... Et donc, en faisant des recherches, et je vais continuer là, je pars demain pour approfondir un petit peu, avoir un petit peu plus de données. Parce que bon, quand on fait une conférence, il faut quand même avoir quelque chose de pointu et avoir d'autres informations que ce qu'il y a sur Internet. Je m'en sers très peu. Je m'en vais voir dans les musées, je m'en vais voir dans les bibliothèques, je fais des recherches sur telle ou telle personne. Et là, en téléphonant donc à ce musée, le responsable, qui est un grenadier, parce que San Martín a créé une armée de grenadiers, il m'a dit, vous revenez, parce que vous savez que le 17 août, c'est l'anniversaire de la mort de San Martín. Venez, on va rencontrer monsieur l'ambassadeur d'Argentine. Je me retrouve à rencontrer des personnes comme ça, auxquelles je ne m'attends pas, et je ne sais pas ce que ça donnera plus tard, quoi. Et la même chose avec le premier roman où vous avez là où je parle d'une catastrophe et entre autres du nucléaire. Une fois en mangeant, on m'a dit, mais pourquoi tu ne demanderais pas à ce monsieur là? Ce monsieur, c'était le barbu qui était au bout de la table. J'ai vu qu'il avait adopté cette petite fille, mais sans plus. Mais je ne savais pas que c'était un spécialiste de la bombe atomique. Et là, au mois de septembre, je vais à nouveau avoir à manger avec lui. Là, j'ai intérêt quand même de réviser un petit peu sur la bombe atomique, parce qu'avant, on m'a dit, les petites bêtes, on me colle des étiquettes, voyez-vous, monsieur l'entomologiste, monsieur le docteur, monsieur l'ingénieur, monsieur ceci, mais je suis pas... Je m'intéresse à tout, bon, j'arrive pas à tout retenir, hein, aussi.
Je reviens à la montagne, la liberté, donc c'est une rencontre avec un milieu carcéral, purement féminin en quelque sorte. Moi, ce qui m'interroge, c'est ce qu'on propose à ces femmes pour se réhabiliter, c'est-à-dire d'apprendre le métier de masseuse. C'est une activité qui est très en vogue en Thaïlande.
Oui, et surtout c'est médical. Donc il y a des professeurs de massage quand vous y allez. Et déjà, autant, ça date de toujours. Et c'est dans la famille aussi. Tout le monde masse, même les... Vous êtes dans une famille avec les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Les petits-enfants apprennent déjà à masser. Il y a des personnes âgées qui se mettent par terre. Et puis, c'est pas les idées que l'on a aussi. Ça existe, hein, certaines idées de massage qui sont concrétisées. Mais là, la personne âgée s'allonge par terre. Et puis, la petite gamine va arriver et puis elle va le piétiner. Hein. Et puis, je veux dire, c'est pas... Moi, souvent, j'y fais que les pieds et les jambes. On vous les tord de tous les côtés, ça vous assouplit. C'est une médecine aussi, c'est une des formes de médecine. Et donc, il y a 360 heures de cours qui sont données donc, en prison, donc organisées au départ par cette capitaine qui gérait cette prison, qui maintenant s'est retirée du statut militaire et s'est mis indépendante pour aider donc ces jeunes femmes avec donc ce gars qui a certains moyens pour financer, qui ont racheté donc en ce moment 5 maisons, qui ont transformé en 5 centres où donc lorsque vous payez votre massage, il y a une partie qui revient à la masseuse, et puis l'autre partie, pour celle qui sort de prison, celle qui a un problème, qui doit rembourser les choses, qui a son gamin, un truc comme ça, c'est un microcrédit, quoi, et rien n'est gratuit et tout, c'est très strict, très 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 bien organisé.
Ces structures qui justement permettent à ces femmes de se réhabiliter. Quelle est la part ou quel est le regard des collectivités locales ou des gouvernements? Est-ce qu'il y a une aide à ce niveau-là aussi?
Oui, c'est très 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 bien vu. Bon, là, regardez, il y a le problème du Covid-19 qui a touché là-bas, malheureusement, qui a touché brutalement et qui a fait beaucoup de mal, quelque chose que l'on ne pense pas, parce que sur les 2200 femmes qui étaient en prison, là, il y en avait 50 qui étaient sorties, dont cette organisation s'occupe, sur 5 centres, mais là, tout a fermé. Le gouvernement a décidé de tout fermer. Et là, la Thaïlande n'est pas encore ouverte au tourisme, donc cela travaille essentiellement avec les touristes. Donc, ces femmes ont été renvoyées dans leur village. En juillet, début juillet, il y a deux centres qui ont essayé de réouvrir, mais un a dû refermer parce que vous avez 5 masseuses, et vous avez un client ou deux clients dans la journée, vous ne pouvez pas tourner, quoi, c'est pas possible. Donc il n'y en a qu'un. Parce que si elles sont là, les femmes, c'est qu'elles ont besoin de vivre, elles ont besoin. Et ça évite de tomber dans la prostitution, d'aller dans d'autres. Et qu'elles ne veulent pas retourner parfois dans leur village parce que. Ceux qui tirent les ficelles par derrière, si nous on ne peut pas passer les frontières, eux le peuvent. Hein, éviter de retomber dans le cercle vicieux de la drogue qui prend une ampleur phénoménale là-bas.
Et ça, c'est une proposition, hein, le massage. Mais est-ce qu'il y a d'autres types, d'autres professions proposées pour ces femmes?
Parce que voyez-vous, c'est là que j'ai découvert, il y a un salon de massage, il y a un centre qui est à l'extérieur de la prison, qui est juste en face, en fin de compte, de l'ancienne prison dont vous avez vu les photos là. Maintenant, bon, la nouvelle prison est un petit peu à l'extérieur. Et le matin, donc, les prisonnières arrivent en fourgon cellulaire. Alors ça, c'est celles qui sont encore en prison, qui apprennent. Qui sont amenés donc en fourgon cellulaire dans cette enceinte. Bon, il faut le savoir. Bon, quelques endroits on voit un petit peu de barbelé, mais bon, il y a quand même les surveillantes. Elles sont là en tenue policière, mais que vous entrez et les femmes, elles entrent. Donc les prisonnières masseuses rentrent dans le centre et là, bon, pendant 8 heures, elles massent, et vous avez une officier qui est à l'entrée. Qui vous donne votre place. Et à côté de cela aussi, il y a un petit restaurant. Donc elles apprennent aussi à faire la cuisine, à servir. Dans la prison, il y a des ateliers où ils fabriquent aussi des chaussons, ils fabriquent des vêtements, ils fabriquent... Les femmes en prison ne restent pas inactives. Hein, la thèse est toujours active, ça travaille. Hein, il y a un petit peu plus de détails dans mon livre au niveau des horaires. Et il y a un respect aussi, par exemple, des religions. Contrairement à chez nous, parfois, on ne veut pas parler le mot religion, c'est tabou. Là-bas, on respecte que vous soyez bouddhiste, que vous soyez musulman, que vous soyez musulmane ou chrétienne. Chacune est respectée vis-à-vis de l'autre. C'est une école d'apprentissage de la société, en même temps, cette prison. Mais bon, pour certaines, c'est... Là, j'ai su, juste après rentrer en France, il y a Nina, une femme de 41 ans. Elle a passé 20 ans, 3 mois et 15 jours. La moitié de sa vie dans la prison.
Quel est votre regard sur cette démarche faite pour aider en quelque sorte ces femmes?
Ben, pour moi, c'est quelque chose de formidable et que malheureusement pas suffisamment su. Parce qu'en dehors, bon, il y a plein d'autres centres. Bon, dans les prisonnières, c'est vrai que lorsqu'elles sortent de prison, ce sont les meilleures masseuses. Elles ont suivi les cours. Il y a eu, il y a quelques années, un apprentissage pour un bad, d'apprendre une heure de massage. Et donc, il y a de tout. Là, ce sont les meilleures. Et dans celles qui sortent de prison, qui savent masser et qui ont envie de travailler, mais hein, il y en a beaucoup. C'est quelque chose de formidable. Mais bon, malheureusement, donc ces 5 centres sont pas suffisamment connus. Et les gens qui arrivent en touristes, ils arrivent le soir à Chiang Mai, le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, ben, dans la vieille ville, là, dans le quartier, il y a... Ah, ben, il y a... Il y a d'autres noms de centres de massage, mais on ne sait pas lequel choisir. Il y en a donc qui sont tenus par des patrons, des Français aussi, hein, comme vous et moi, qui peuvent avoir leur salon de massage et qui embauchent de ces masseuses et qui sont rémunérés. C'est très bien aussi, quoi. Mais là, ces cinq centres, ils prennent directement celles qui sortent de prison. Ce n'est pas toujours la petite minette que l'on rêve qui va vous faire le massage. Non, parfois, il faut dire que je n'aurais pas envie de me faire un massage par... Elle arrive, elle fait peut-être 120 kilos et est en train de vous retordre. Mais c'est médical aussi. C'est...
Une aventure au Pérou, ça a été un des débuts de vos écritures. Qu'est-ce que vous en avez ressorti de cette escale?
J'aime bien le mot escale, heureusement qu'il n'a pas duré. C'est une rencontre avec un nom que vous connaissez très bien ici, que tout le monde connaît, mais on n'arrive pas très bien à... Si, on met une étiquette maintenant, c'est Quechua. Les Quechua, c'était donc un peuple avant que les Espagnols viennent envahir l'Amérique du Sud. Il y avait les Quechua, donc qui sont... La Bolivie, oui, c'est la partie Pérou, et vous avez les Aymara, donc qui sont en dessous en Bolivie, donc c'est qui était toujours un petit peu en fusion tous les deux. Donc c'est les habitants et qui avaient leurs règles, leurs connaissances, des connaissances qu'on a perdues, qu'on a éliminées aussi. Ils étaient quand même, quand ils ont été conquis par les Espagnols, 12 millions. Et sur les 12 millions, en 45 ans, il y en a 11 millions qui ont disparu. Et tout le reste est là, quand j'ai des données par une personne d'Argentine, elle me dit, mais les horreurs, on en a eu assez de l'esclavage des Espagnols. Et ça reste toujours, hein. Mais bon, les gouvernements ont changé, et puis aujourd'hui, bon, il y a le monde de la drogue, tout ça, qui a pris une ampleur phénoménale en Thaïlande, mais quand vous aurez une interview avec Barbieri, donc un ex-flic anti-drogue, là, lui, il en connaît beaucoup plus sur le rayon de la Bolivie.
L'Amérique du Sud, la drogue est très présente. Ouais.
Mais ça va à une vitesse. Moi, je suis en train de finir son dernier livre, là, c'est effarant, mais... Là, dans le mail aussi que j'ai eu tout à l'heure, c'est pareil au niveau des pilules qu'il y a en Thaïlande qui coûtent 50 centimes et que c'est cette drogue qui rend fou. Et là, c'est pas encore, en me renseignant, c'est pas encore arrivé à l'Europe. Mais les gens sont fous, violents et c'est effarant à la vitesse à laquelle ça se développe.
Est-ce que vous avez pensé, au long de vos voyages et des rencontres, être comme un explorateur ou un rapporteur de l'esclavage d'aujourd'hui?
Non, je n'y pense pas, mais je suis en face des faits. Et puis bon, comme je suis un peu bavard, et puis je pense qu'il y a des choses à dire. Je l'ai dit. Parfois, ça a été contre moi, parce que dans son administration, et je sais que là... Je fais certaines rencontres avec des personnes bien placées qui me disent « tu devrais peut-être pas trop parler » ou « tu sais, à certaines personnes, il arrive ceci ou cela ». Mais je me dis, et c'est comme le Covid là, tout le monde est en train de se protéger avec un masque. Lorsque je suis arrivé à un dernier voyage en Thaïlande, il y a eu le SRAS, je me souviendrai toujours, où je vais, il y a les deux hôtels. Et la patronne que je connais aussi depuis 84, elle me dit, bah, Jacques, tu prends la chambre que tu veux, tout le monde est parti, c'est tout vide. Quand il y a eu la grippe aviaire, on tuait les poulets, moi dans la famille, ils tuaient les poulets par milliers, par millions, les intérêts. Je mangeais avec eux, avec les doigts. Je dis, puisqu'il doit m'arriver, il m'arrivera. Bon, il m'est arrivé d'autres choses aussi, après là, j'en parle plus parce que ça... C'est... Le directeur est complètement d'argeux, celui-là, c'est pas possible. Alors je le mets dans mon livre, mais je le mets sur d'autres personnes. Ce qui se passe dedans, ce sont des choses vraies, mais pas sur la bonne personne, pas au même endroit.
Vous changez les noms, voilà, en quelque sorte.
Et du coup, vos romans, ils sont sortis de manière indépendante. Est-ce qu'on peut quand même les retrouver sur toutes les plateformes de vente?
Non.
Voilà. Et donc pour les auditeurs ou pour les personnes qui pourraient être intéressées, si on veut avoir un de vos bouquins,
Ben alors, vous pouvez m'envoyer un mail, éventuellement, j'ai sur un de mes livres, enfin sur tous mes livres, donc j'ai une adresse mail, donc gaia2036fra@gmail.com. Donc vous pouvez m'écrire. Et sinon, quand même, j'habite Vennes et tous mes livres sont à la bibliothèque, à la librairie La Ruche de Vennes.
Vous avez un blog ou un site internet ?
Non. Alors je suis nul en informatique, j'ai même pas internet chez moi. Bon, je bouge beaucoup, j'ai eu la wifi partout. Hein. J'ai deux ordinateurs, j'arrive quand même. Mais merci. Pas de télé non plus, voyez-vous. Oh là là, mais j'ai pas le temps, tout ça. Là, même comme je mange parfois à un endroit à Vennes, la tête ailleurs, où là on peut parfois m'y rencontrer, et comme Jeff aussi y mange, on me dit tiens, il faudrait en face un restaurant d'auteur ici, ça serait bien pour les gens qui sont publiés et qui n'ont pas de prix, rien du tout, ça serait amusant, et que les gens qui passent par Vennes peuvent m'y retrouver là. Quoi.
Jacques Melin, je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous parler de votre publication, donc La Montagne, la Liberté, avec en dessous inscrit roman-fiction, point d'interrogation, pourquoi ?
Tout est un petit peu déplacé. Voyez-vous, vous voyez une île. Bon, la photo existe, l'île existe, mais ce qui se passe sur cette île dans la montagne, cela se passe sur une île juste à côté, mais en fin de compte, qui n'est plus sur le territoire thaïlandais, mais sur la Malaisie, voyez-vous. Et il y a un autre sujet aussi qui se passe sur une autre île qui n'est pas... Non, c'est pour ça que c'est en fiction. Il y a des choses qui ne sont pas en Thaïlande, mais que les gens aiment découvrir et que je voulais que... Parce que quand on parle de la Thaïlande, les gens ont une image. Donc la frontière n'existe pas, vraiment. Hein. Vous voyez une île, puis l'île d'en face, là-bas, c'est pas le même pays. Alors pour moi, bon, je voulais pas qu'il y ait une séparation, que vous soyez sur l'une ou sur l'autre. C'est pareil, quoi. J'ai aboli les frontières de ce côté-là. Mais j'aurais voulu quand même que l'on revienne. Bon, j'ai une autre adresse mail. Enfin, oui. Au niveau de ces femmes.
Oui.
Si les gens peuvent lire sur Internet www.dignitynetwork.org, alors j'appelle dignitynetwork.org, et que s'il y a quelqu'un qui est intéressé en Thaïlande pour aider ces dames et pour... en même temps profiter de très bons massages et qui se retrouvent là-bas, de faire un crochet, puis ça, ils vont passer une heure ou deux très agréablement en faisant une très bonne action.
Interview.
Okay, the bird.